Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les vendredis, le réveil culturel est ouvert aux auteurs de bandes dessinées. Et aujourd'hui, je reçois Simon Roussin qui publie aux éditions 2024 un récit d'aventure. Chibalba, on en parle dans un instant. À la coordination, Corinne Amar. À la prise de son, Manu Couturier. Et à la réalisation, Vincent Abouchard. Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou mieux, l'abonnement au podcast disponible entre autres à la page de l'émission sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Simon Roussin.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes diplômé des Arts Déco de Strasbourg depuis 2011 et depuis, vous n'avez pas chômé puisque vous êtes déjà connu, vous avez déjà quelques bandes dessinées qu'on a remarquées. Vous êtes l'auteur entre autres de Robin Hood aux éditions L'Employé du Mois, ça c'était en 2010. Les Aventuriers aux éditions Magnani en 2011, Barthélemy aux éditions Cornelius, Prisonnier des Glaces, l'année dernière ça ?
Ouais, il y a deux ans.
Il y a deux ans. Ouais. Et vous êtes par ailleurs le fondateur de la revue Nyctalope. Vous collaborez aussi au magazine Ce Film, c'est bien de le rappeler puisque le cinéma est très important dans votre travail, le cinéma américain, enfin un certain cinéma américain, celui de John Ford par exemple, étant une de vos sources d'inspiration. Et dans votre dernière bande dessinée, Chibalba, hein, c'est avec un X, ça se prononce ainsi, ou Chibalba, ça se prononce comment ?
Ça se prononce Chibalba, mais on peut dire un peu comme on veut.
Alors, dans votre dernière bande dessinée, Chibalba, grand format, vous reprenez les thèmes qui vous sont chers, c'est-à-dire le récit d'aventure, avec cette fois-ci des aviateurs, et puis la conquête du ciel, puisque on est dans une époque où la conquête du ciel continue, et cette conquête s'accompagne aussi de l'exploration de terres inconnues, ou si peu connues, puisqu'on est dans les années 30, et qu'avec vos héros, on va se retrouver suite au crash de l'avion Aélis dans la jungle mexicaine. Mais ça veut dire quoi, Chibalba, Simon Roussin ?
Chibalba, c'est l'inframonde maya. Enfin, c'est le lieu des morts chez les Mayas, dirigé par les dieux de la mort. Après, c'est un mot que je trouvais qui sonnait comme un peu une formule magique. Enfin, il n'est pas du tout mentionné dans le livre. Il n'est jamais prononcé même. Mais comme le livre parle de fantômes, de disparus.
Et qu'on est en terre, justement.
Et qu'on est en terre.
Aztèque et Maya, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais, à la frontière du Mexique et du Guatemala. Et du coup, ça me semblait sonner avec le livre et avec l'intention, en tout cas, de parler de choses impalpables.
C'est une histoire aussi sur la fin de l'aéropostale, avec des pilotes qui vivent dangereusement, mais pour une mission d'intérêt public.
En fait, je voulais me baser sur une période historique donc qui a existé, l'aéropostale, qui me fascinait parce que c'est vraiment les derniers aventuriers quoi du 20e siècle. Enfin, c'est les derniers pionniers avant l'industrie, avant Air France, avant l'aviation civile de commerce.
Pour aller
voilà,
vite,
c'est ouais. Ça. Et du coup, il y avait, enfin voilà, moi, ça me parlait cette période-là et j'avais envie de prendre ce support pour un prétexte à raconter après une histoire beaucoup plus personnelle et beaucoup plus.
Mais c'est le côté aventurier ou c'est juste pour le plaisir de dessiner des avions hélices?
C'est un peu des deux. Les avions m'ont jamais passionné. Enfin voilà, c'est plutôt une découverte à travers de lectures de films de cette période avec au fil des années quoi. Et puis oui, c'est l'aventure, c'est découvrir des nouveaux espaces, des nouvelles frontières, des nouveaux territoires encore vierges de traces humaines et tout ça. Donc c'est des choses qui me parlent. Il y a le parallèle avec la fin du western aussi, l'arrivée de la civilisation. Enfin, c'est des choses que j'aime voir ou lire. Et du coup, j'avais envie d'inscrire une série de livres aux éditions 2024 autour de ces aviateurs, mais des histoires d'aviation où les aviateurs resteraient au sol et finalement volent très peu. Et la bande dessinée d'aviation, c'est quand même un genre qui est très très codifié. Enfin, avec c'est très bien dessiné, il y a tous les boulons qu'il faut. Enfin voilà, il y a les modèles d'avions exact, et j'avais envie de m'amuser avec ce genre-là, en mettant des petits astérix authentiques, essayer de dessiner les choses de manière presque réaliste au départ de l'histoire, en tout cas, pour permettre au récit de glisser plus facilement dans quelque chose de fantastique et plus surnaturel, ou en tout cas un peu plus abstrait et de l'ordre de l'émotion plutôt que de l'aventure l'aventure classique.
Même si l'aventure est bien présente.
Mais l'aventure est bien présente,
ouais. Elle est présente avec des aviateurs, elle est aussi présente avec les explorateurs ou une exploratrice, on va en parler. Alors justement, parlons des personnages, et pour commencer, des deux personnages principaux, parce que au début, quand on prend votre album, Chibalba, Simon Roussin, on a l'impression qu'on va vivre des aventures avec vos deux personnages masculins, c'est-à-dire Eddie l'Américain et André le Français, qui sont très amis. D'ailleurs, c'est très étrange, vous représentez cette histoire d'amitié comme si c'était une histoire d'amour, et les histoires d'amour qu'il y a dans le livre comme si c'était des histoires d'amitié, alors qu'il n'y a pas, il y a aucune ambiguïté. Parlons donc de ces deux personnages.
Le récit est construit de telle sorte qu'on commence l'histoire dans un, on est au milieu d'un récit d'aventure exotique à la façon des films d'aventure des années 40, 50 hollywoodiens, enfin voilà, quelque chose de très typé avec des personnages qui reposent sur des clichés ou en tout cas des caractères qu'on a l'impression de connaître, c'est-à-dire l'aventurier américain souriant qui chante des chansons dans les bars et puis qui est un peu bellâtre comme ça, mais
on devine tout de suite qu'il a effectivement quelques cicatrices enfouies. C'est la même chose pour son ami français André, qui lui est physiquement meurtri par un accident. Il porte en eux tous les conflits, parce qu'on est dans les années 30,
ouais.
On est donc entre deux guerres mondiales, ils portent déjà dans leur chair les conflits du XXe siècle.
Oui, bien sûr, les pilotes de l'aéropostale, c'était souvent des pilotes qui sortaient de la Première Guerre mondiale et qui étaient inutiles, entre guillemets, entre les deux guerres. Enfin, les avions n'avaient plus d'utilité, et du coup, la TECOR a monté l'aéropostale en trouvant une nouvelle utilité à ces avions et en les rendant au service du courrier. Et du coup, oui, c'est des personnages qui sont forcément torturés, voilà, mais du coup, j'avais envie d'explorer ces caractères-là et de, le long du livre, d'essayer d'avoir des personnages changeants, enfin, dont les caractères pouvaient changer, pouvaient être pleins de contradictions aussi. Ils traversent des épreuves qui leur permettent de changer d'avis, de se confronter à leurs opinions, à leurs croyances aussi. Et c'est ça qui m'intéressait, d'essayer de fouiller, d'avoir des personnages qui seraient à la fin du livre presque à l'opposé de ce qu'ils étaient au départ.
Ce que vous faites de totalement différent, quand on s'inscrit dans le genre de la bande dessinée d'aventure, c'est de tuer un des deux personnages. Puisque, on peut le dire, un des deux personnages va mourir au quart de la bande dessinée.
Ouais, alors ça c'était vraiment l'idée de base. J'ai presque espéré un moment qu'on fasse la promotion, en tout cas le résumé du livre, sans parler de cette mort, parce que c'est elle qui fait basculer le récit dans quelque chose d'autre. Mais voilà, j'avais envie de créer un personnage auquel on s'attache au départ, avec des scènes de chant, d'apparence anodine un peu, qu'on retrouve, vous avez parlé de John Ford et tout, mais c'est un cinéaste que j'aime pour ça particulièrement, c'est l'attachement au personnage, à la routine.
Mais donc à peine attaché à ces personnages que l'un d'eux meurt, ouais. Et toute l'aventure de Chibalba, donc je rappelle le titre de votre bande dessinée éditée chez 2024, Simon Roussin, toute l'aventure c'est comment on promet à son ami de l'enterrer chez lui. Donc il va y avoir ce voyage, un crash d'avion, et nous voilà dans la jungle mexicaine où commence vraiment l'aventure.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on a le souvenir du personnage en même temps que les autres personnages, en fait. On sent le souvenir du personnage qu'on a suivi au début. Et voilà, et c'est un fantôme pour le lecteur aussi. Du coup, c'est ça qui m'intéressait. Et effectivement, tout le but de l'histoire, c'est cette espèce de promesse impossible à tenir, ou en tout cas un peu illusoire, de vouloir ramener un corps chez lui pour l'enterrer.
Et comment vivre avec les morts.
Comment survivre, comment veiller l'un sur l'autre. Enfin voilà, c'est des questions, se reconstituer une famille avec des personnages complètement différent, enfin voilà, et justement je voulais pas d'ambiguïté dans les rapports amoureux. Enfin, il y a un personnage, Paloma, qui est la maîtresse de Eddie au début de l'histoire, qui est vraiment très ancrée dans un archétype de récit d'aventure, la maîtresse un peu en second plan, et qui devient presque un personnage, presque le personnage principal par moment. Pour moi, en tout cas, quand je faisais l'album, elle tenait un peu les rênes du groupe, quoi, à la fin. Et je voulais pas d'ambiguïté entre, par exemple, André, le personnage masculin, et Paloma ou d'autres personnages masculins. Je voulais pas d'ambiguïté de rapport amoureux ou de suspense amoureux comme ça, mais et du coup d'essayer de construire des rapports qui seraient plus sur des rapports de familiaux ou d'entraide ou d'amitié qui se construisent, qui se forment.
Et l'aventure, c'est aussi découvrir un territoire. Et là, en l'occurrence, c'est cette jungle.
La jungle mexicaine, ils atterrissent donc dans la jungle mexicaine qui est une jungle voilà qui a abrité des civilisations précolombiennes et tout et qui est pleine de croyances où des Indiens vivent encore et effectivement pour pas trop en dire mais ils se retrouvent confrontés à des fantômes personnels. Chacun revoit des êtres aimés et
chacun a rendez-vous avec son passé aussi.
Oui, c'est ça. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de parler de ça sans rapport à en restant au niveau des personnages et jamais dans une espèce de rapport à une croyance, à une religion presque ou à quelque chose de supérieur, mais vraiment avec les personnages.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Chibalba, c'est le titre aussi de ce morceau de musique interprété par le guitariste mexicain Mauricio Barami. Chibalba, c'est le titre de la dernière bande dessinée de mon invité ce matin, Simon Roussin. Et là, on embarque avec vous dans une aventure dans la jungle mexicaine. On est donc avec des pilotes qui sont plutôt des aventuriers. Et puis on est aussi avec une amante éplorée, Paloma, avec une ethnologue et surtout avec deux jumeaux mystérieux. Et c'est avec eux que vous nous embarquez dans cette aventure. C'est plus d'ailleurs une exploration d'un territoire, d'une culture que d'une aventure proprement dite.
Ouais, l'envie en tout cas c'était de faire un livre ou un récit d'aventure où tout d'un coup, l'aventure deviendrait statique, où il n'y a plus d'aventure. Enfin, les personnages ont ce but de traverser un territoire immense en avion pour retrouver l'Arizona, se crashent, et tout d'un coup, sont dans l'impossibilité de continuer leur voyage. Donc, ils sont obligés de rester à cet endroit précis de la jungle. Et l'aventure devient statique, elle s'arrête, elle devient plus intérieure avec des rapports, voilà, rapports aux fantômes, rapports personnels. Il y a des rebondissements qui sont voilà inhérents au genre d'aventure de tout ça, mais qui sont moins spectaculaires. J'ai l'impression que dans mes précédents livres ou même Prisonnier des glaces, qui est une histoire parallèle à cette histoire-ci, qui était plus dans la démonstration graphique ou voilà. Et là, l'idée c'était d'avoir un récit plus épuré d'aventure, mais plus épuré, plus simple.
Et plus intimiste, du coup.
Plus intimiste, oui, plus pour se concentrer en fait sur les personnages, vraiment sur les, essayer d'avoir de typer des caractères, enfin d'essayer d'approcher des caractères très différents de personnages et de les confronter, de voir comment ils peuvent bouger dans les récits d'aventure exotiques. Vous avez l'explorateur, vous avez la femme à sauver, vous avez le méchant. Les personnages ne changent très peu au cours de l'histoire. et reste souvent à l'état d'archétype, même si ça fait des films ou des histoires superbes. Mais là, j'avais envie que on doute avec eux, on se pose des questions, que voilà, l'ethnologue devienne à un moment donné très importante, puis qu'elle reprenne sa place, qu'elle donne le flambeau à un autre personnage, qu'on fasse la connaissance comme ça de multiples personnages et qu'il n'y ait pas, en tout cas plus, un seul héros invincible, enfin voilà, comme ça.
Et pour raconter quoi au juste, Simon Roussin ?
Pour raconter une histoire de fantôme, donc une histoire de disparition, de souvenirs, comment des personnages arrivent à vivre avec le souvenir de leur mort, alors sans que... Comme ça, ça paraît très sombre, enfin très très pesant comme thématique, mais du coup
et très étonnant venant de votre part. Vous êtes plutôt jeune.
Oui.
On vous imagine mal vous poser autant de questions autour de la mort, de ce qu'on devient après la mort, de comment vivre avec le ou les souvenirs des morts.
Oui, peut-être, mais je sais pas. C'est une question qui m'a toujours intéressé, en tout cas questionné, quoi. Enfin, sans que ça soit, sans que j'ai un intérêt morbide pour cette question ou même une tristesse particulière ou voilà. Mais
à vos questionnements, est-ce que la culture mexicaine, puisque vous parlez justement de cette culture, ouais, de la fête des morts, de comment ailleurs on peut avoir un autre rapport à la mort, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, que vous avez découvert, que vous avez étudié?
En fait, j'ai été confronté à... J'ai fait une... En 2015, j'ai fait une résidence à Mexico. On m'a invité pour une résidence de travail à Mexico. J'y suis resté 2 mois en tout. Et en fait, je suis arrivé le week-end de la fête des morts. Donc, j'avais jamais... Enfin, je connaissais pas du tout la culture mexicaine, tout ça. Donc, j'ai... Et en fait, c'est vrai que le rapport à la mort là-bas est complètement différent... Qu'en Europe, et ça m'a beaucoup marqué. Et à ce moment-là, j'étais dans l'écriture de ce livre, et j'étais bloqué dans ce début d'histoire très, très réaliste. Enfin voilà, j'arrivais pas à trouver le moyen de rendre une histoire personnelle, ou en tout cas l'angle que je pouvais prendre. Et l'arrivée au Mexique, le temps passé là-bas, j'ai pu me balader aussi, enfin visiter un peu du pays, des ruines, des sites archéologiques précolombiens, et c'est une terre qu'on sent gorgée d'histoire, et puis c'est aussi un peu galvaudé de se dire, ah, on est au Mexique, on va écrire. Enfin, il y a des tonnes d'écrivains qui sont arrivés au Mexique et puis qui ont écrit sur le Mexique. Enfin, il y a un pouvoir un peu de cette terre-là, du paysage, de la jungle, de l'histoire aussi qui est toujours présente. Enfin, enfin, en tout cas, j'ai senti quelque chose de particulier qui m'a beaucoup plu et passionné, et qui a complètement débloqué l'écriture de ce livre. Du coup, effectivement, le livre, c'est en très très grande partie écrit là-bas.
C'est un grand format Chibalba, Simon Roussin, avec une couleur dominante, cette couleur orangée qui est très très présente. Il y a que 3 couleurs dans votre univers.
Oui, il y a un noir et deux oranges, on va dire, mais... Donc je voulais avoir cette bichromie, mais pas dans les tons sépia. Enfin, je voulais pas quelque chose d'un peu désuet, vieux. C'était plutôt dans l'idée d'avoir de travailler avec des tons de rouille, de terre, enfin quelque chose qui ancrerait le récit dans une matérialité, enfin quelque chose de très minéral, de terrien, enfin voilà, parce que le récit est très dense, il y a beaucoup de personnages, on l'a dit, ça parle de fantômes, d'un peu de quelque chose un peu de mystique, ou en tout cas d'ésotérique, enfin voilà, il y avait plein de thématiques comme ça, mais j'ai essayé de le rendre le plus simple possible et le plus épuré possible pour que que ce qui soit important, c'est vraiment le déroulé de l'histoire et le déroulé de, du sentiment des personnages et le parcours de ces personnages. Donc il me fallait un habillage graphique ou un outil graphique, en tout cas le plus simple possible, le plus efficace ou épuré, en tout cas au service de l'histoire.
Diriez-vous la même chose pour votre trait, parce que vous êtes à la fois très proche de la ligne claire, on a l'impression que vous êtes plutôt proche des premiers dessins des grands auteurs de la ligne claire. Je veux dire que ça renvoie beaucoup plus au début de Hergé qu'à la fin de sa carrière, c'est-à-dire cette manière de vouloir représenter, mais avec un trait un peu grossier, les personnages.
Oui, effectivement, j'ai un dessin qui est un peu maladroit, enfin que j'ai appris à apprivoiser, voilà. Avec
volontairement maladroit?
Non, pas volontairement, ou en tout cas pas consciemment maladroit. Enfin, je sais pas, ça dépend des livres ou des images que je produis. En tout cas, pour ce livre-là, j'avais envie de le pousser un petit peu. Enfin, j'ai l'impression d'avoir dessiné de manière plus lisible, plus classique aussi au départ, parce que j'avais vraiment envie de démarrer le livre comme si on s'attendait à un récit très classique d'aventure, comme on en a déjà lu.
Ouais, dans le ciel
et,
avec deux
voilà,
aviateurs.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'il y ait quelque chose de sourd, un peu sous-jacent, comme ça, qui monte crescendo. Et donc le dessin devait servir cette idée. Et au tiers du livre, quand le récit bascule dans la jungle, le dessin se transforme un petit peu, devient plus épuré sur les personnages et plus abstrait dans la végétation, j'ai l'impression, avec des formes que je dessinais au pinceau, la vie, au feutre aussi, et puis que je recolorisais.
Mais à l'ordinateur, tout ça?
Comme c'est une micromie, ça c'est fait à l'ordinateur, oui. Mais j'essaye d'avoir... c'est à l'ordinateur et c'est aussi du feutre, c'est aussi des parties faites à la main.
À partir de demain, vous allez exposer vos dessins à la galerie Art Factory, Simon Roussin. Il y aura sans doute quelques planches de Chibalba et d'autres dessins.
Oui, il y aura une salle consacrée à Chibalba avec quelques références aussi de livres qui m'ont aidé à faire celui-ci. Des livres de documentaires, des livres d'images, des livres de photos récupérés au Mexique. Ou chiné en France. Enfin,
il va y avoir sans doute les légendes du Guatemala.
Oui, de Asturias. C'est des livres que j'ai lus pendant, avant de faire le livre, avant de commencer le livre. Et après, j'ai essayé pendant la réalisation du livre, j'ai essayé de me tenir un peu à l'écart de toute cette littérature latino-américaine qu'on appelle le réalisme poétique et tout ça. Enfin. Pour essayer de pas trop m'imprégner de tout ça et d'avoir une approche personnelle du genre.
Et graphiquement?
Graphiquement, je voulais plutôt m'ancrer dans des récits d'aventure classiques façon Théodore Poussin, un peu, Ligne Claire, ce que j'aime lire aussi, hein, et que j'ai lu beaucoup. Mais après, bizarrement, j'avais pas beaucoup de références en bande dessinée. C'était plus des références de cinéma comme très souvent. On a parlé de Jeune Forme, mais c'est parce que c'est vraiment une référence majeure et toute proportion gardée. Voilà, j'aime beaucoup ces films parce que ils parlent de rapports entre personnages où des fois voilà on suit des personnages, leurs failles, leur mélancolie aussi. C'est un cinéma qui me plaît beaucoup. Et puis j'ai beaucoup vu les films de Tourneur, de Hawks, toujours.
Et un de vos personnages, Simon Roussin, est une gueule cassée, on peut le dire.
Ouais.
C'est vrai que ça rappelle l'époque, hein, surtout aujourd'hui qu'on fête le centenaire de la Grande Guerre, mais c'est très difficile de travailler avec un personnage aussi central qui n'a pas de visage ou dont le visage est ravagé, parce que comment vous le faites vivre, comment vous exprimez les expressions?
Oui, en plus, en cours de livre, il porte un masque,
ouais.
Donc il est vraiment. Là, c'était un petit clin d'œil personnel parce que j'aime bien cette figure du masque. Enfin, c'est une figure un peu récurrente dans mes albums, mais c'est pas non plus très théorisé, hein, ou très conscient. Mais là, en tout cas, j'aimais bien l'idée qu'un personnage ait justement traverse des émotions immenses, confronté à la mort d'un ami. Enfin voilà, à un mystère de l'apparition de fantômes. Et qui en même temps est incapable physiquement de produire une émotion. Donc il fallait trouver des systèmes pour Ça permettait de rester dans une certaine pudeur aussi par rapport aux grands sentiments. Je voulais pas être d'effluves de larmes. Je voulais essayer de rester à hauteur des personnages, mais souvent ils sont de trois quarts d'eau, ils savent plus trop s'exprimer, enfin ils hésitent. Du coup, ça permettait de leur laisser l'espace de s'exprimer et au lecteur de comprendre leurs émotions et de projeter aussi leurs propres sentiments. Quoi.
Simon Roussin, merci d'être passé ce matin pour nous parler de Chibalba, édité chez 2024, avec un très très beau papier d'ailleurs que pour ce livre.
Ouais, un papier très fin. Enfin, on voulait pas un livre trop lourd, trop imposant, parce que c'est vrai qu'il est assez grand et la pagination est assez importante. Et du coup, le papier le rend finalement assez léger par rapport à l'objet. Il est très très fin, mais il a beaucoup de mains. Du coup, il n'y a pas de transparence. Enfin, il est assez étonnant. C'était la petite trouvaille de dernière minute, mais il est très.
Il y a des doubles pages sans parole, juste visuel. Je suppose que ça fait partie des dessins que vous exposez en ce moment et jusqu'à fin décembre à la galerie Art Factory à Paris, puisque.
Oui, il y aura, il y a une exposition avec Hugues Micole à la galerie Art Factory jusqu'à fin décembre où il y aura quelques planches de Chibalba et des peintures que j'avais déjà présentées l'année dernière à Marseille. Et là, c'est la suite.
Merci d'être passé ce matin, Simon Roussin.
Merci.